cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 27 mai 1994.
Alors, est-ce qu'il y a un art chrétien au niveau de la pédagogie? Y a-t-il une sculpture chrétienne? Y a-t-il une archéologie chrétienne? Y a-t-il une médecine chrétienne? C'est un art. Et la logique est un art. Y a-t-il une logique chrétienne? Mais au point de vue critique, hein? Avec tout ce qu'on a dit, vous devez pouvoir conclure. Oui, non, non, non. Ce serait amusant. Je ferais passer un petit test comme ça. En réfléchissant 5 minutes sur chaque question. Je verrai si vous avez compris quelque chose. Y a-t-il un raisonnement chrétien? Y a-t-il un jugement chrétien? Y a-t-il une appréhension chrétienne? C'est un art. Y a-t-il un concept chrétien? C'est intéressant de se poser la question comme ça, puisque toute la logique repose sur le concept. L'universel. Y a-t-il un universel baptisable, chrétien? Je vous donne ça parce que dès qu'on regarde la critique du Fat Chéré, c'est immense. C'est immense. Il y a tout ça qui s'ouvre et auquel on doit dire quelque chose de juste. Où est la vérité? Puisque enfin, c'est toujours la vérité, la critique essaie de comprendre la vérité et essaie de comprendre le point de départ. Quel est l'élément premier de la connaissance artistique? L'élément premier de la connaissance artistique, c'est l'idéa. C'est sûr. Et quand on n'est pas d'idéa, on l'emprunte à son voisin. C'est ça le travail en série. Le travail en série est commandé par quelqu'un qui a pigé l'histoire et qui fait travailler tous les autres. Y a une idée. Même celui qui est le porte-valise à la sortie du train, c'est du travail. Et son idée, c'est l'idée du client. Tu porteras cette valise à tel endroit. Parce que je lui dis, hein, voilà, cette valise, mais quoi, qu'est-ce qu'il faut en faire? La porter, mais où? Donc le travail est commandé par celui qui est le client. Et c'est comme ça au point de vue marché. Savoir quels est les désirs de la clientèle et des gens, c'est commandé par ça. C'est très intéressant, vous voyez, de voir toujours le point de départ et puis le point de vue. Vérité. Alors, ce qu'il faut, c'est lorsqu'il s'agit de l'art, de l'éducation, puisque là, nous sommes tous intéressés, puisqu'il y a Saint Jean, éducation. Donc, tous, nous devons réfléchir là-dessus. Faut pas laisser un seul réfléchir, nous devons tous réfléchir là-dessus. Et c'est intéressant, du reste, parce qu'on demandera constamment des conseils. Alors, l'art de l'éducation, c'est un art qui aide la nature humaine dans son état d'imperfection. Pour acquérir la personnalité humaine, être une personne. Et à un moment donné, on n'accepte plus d'être éduqué. On doit s'auto-éduquer, d'être à soi-même. Son propre éducateur. Et donc avoir un regard artistique sur ce qu'on fait et une conscience limpide sur ce qu'on fait. On doit toujours s'éduquer. On est un bon éducateur quand on s'éduque soi-même. On a été éduqué, plus ou moins bien. On a été éducation, c'est d'arriver à faire que celui qui est éduqué se prenne en main et arrive dominum sui, ce que dit saint Thomas. J'aime mieux dire dominum sui que gérer son capital. Mais, parce que c'est plus se prendre en main. Se prendre en main au point de vue prudentiel. Tant qu'on ne se prend pas en main, on n'est pas prudent. On est peut-être obéissant, mais on n'est pas prudent. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de s'orienter soi-même. Alors, tout l'art qui est adjuvans naturam est dépendant de la nature. Regarde, il est relatif à ça. C'est pour ça que l'art de l'éducation, c'est terrible. Parce que il est dépendant de chaque individu. On n'éduque pas une collectivité. On peut enseigner une collectivité, mais on ne peut pas éduquer une collectivité. L'artiste regarde toujours quelque chose de singulier. Et ça, c'est très important. Ce qui montre très bien que l'art ne peut pas être une science. C'est impossible. Alors aujourd'hui, où la science et la connaissance scientifique ont un tel prestige, que même des pédagogues veulent que leur pédagogie repose sur une science. Et ils ramènent quelquefois leur art à une science, ce qui est une erreur. Une science ne peut pas être un art, mais une science peut éclairer un art et aider un art d'être un véritable art. Alors ce qu'il faudrait savoir, quand vous êtes en face de l'art, ce que je dis ici, on pourrait le répéter pour les autres. Tous les arts adjuvans naturam. Est-ce que le fondement de la pédagogie est la psychologie ou la philosophie éthique et la philosophie du vivant? Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est là où vous avez deux pédagogies totalement différentes. Une pédagogie qui s'appuie sur la psychologie et une pédagogie qui s'appuie sur la philosophie. Voyez tout de suite la différence. C'est que la psychologie regarde le comportement et la philosophie regarde la finalité. Je ne peux pas éduquer si je n'ai pas nettement une vision de ce que c'est que l'homme, de ce que c'est que la personne humaine. D'expérience au-delà de toutes les catégories, et je dois voir d'abord ses qualités pour connaître ses défauts. Je ne peux connaître ses défauts que si je connais ses qualités. Autrement, c'est abstrait et ça ne regarde pas la réalité. Et donc, je dois découvrir, essayer de découvrir dans l'individu comment éveiller son intelligence, comment éveiller sa capacité d'aimer, comment éveiller ce qu'il est capable de faire. Éveiller en lui sa prudence. Il faut le pédagogue, c'est un éveilleur des diverses qualités de l'individu. Et en essayant d'éveiller les qualités de l'individu, il voit tout de suite tout ce qui peut arrêter cet éveil. Alors, c'est là où la psychologie peut aider pour comprendre comment il y a telle barrière et que cette barrière provient sans doute de tel refoulement. Il peut faire ça. De la première éducation. Il y a eu dans la première éducation telle misère qui se répercute. Mais il faut comprendre justement aussi que l'être humain a ceci de très étonnant, c'est qu'il peut toujours, même s'il a eu une blessure jeune, il peut toujours se rattraper, se récupérer, parce qu'il est un vivant, et un vivant spirituel. Et s'il est chrétien, a fortiori, puisque la miséricorde enveloppe toute pédagogie chrétienne. Et donc, il pourrait se récupérer et se fixer délibérément sur des blessures de jeunesse. C'est dangereux. Parce qu'alors, soi-même, on tombe dans la psychanalyse. La psychanalyse, c'est se fixer sur des blessures premières. Or, la blessure n'éclaire rien. Ça conditionne, mais ça n'éclaire rien. Il faut tout le temps venir à la finalité pour pouvoir s'éduquer. Et c'est la finalité qui doit être là, toujours première. Et il y a tout un aspect très important dans cette auto-éducation. Se prendre en main, se connaître avec ses blessures, ses fragilités, ses vulnérabilités, mais surtout connaître ses qualités et mettre toujours en lumière ses qualités. Et dans la pédagogie chrétienne, comprendre que tous les blessures qui ont pu avoir lieu nous mettent en présence d'une pauvreté de fait qui ne doit jamais être regardée pour elle-même, mais qui doit toujours être regardé à travers la miséricorde. C'est quelque chose de positif, la pédagogie, hein. C'est pas négatif. C'est pas la médecine non plus. Et on dira que la pédagogie, c'est la médecine de l'âme. Oui, d'une certaine manière, c'est que on va voir un psychologue normalement quand ça va pas. Quand ça va bien, on va pas se frapper à la porte d'un psychologue, hein, pour raconter ses histoires et payer la visite temps. Non, c'est pas la peine. Ça va bien. Au fond, on va voir un psychologue comme on va voir un médecin quand ça ne va pas. Quand on est à peu près équilibré biologiquement, que ça va pas trop mal, qu'on peut travailler, quand psychologiquement on a des relations normales avec les autres et que ça va pas trop mal de coopérer ensemble, on n'a pas besoin. On va voir le psychologue quand justement on sent des ruptures, on sent des échecs. Alors le danger, c'est de regarder ces échecs pour eux-mêmes. C'est ça le danger. Parce qu'on ne corrige pas un échec par l'échec. L'échec ne donne pas en lui la possibilité d'en sortir. Qu'est-ce qui donne la possibilité d'en sortir? C'est le caractère positif qui est en nous. Notre finalité. C'est notre finalité qui me permet de sortir de mes échecs. De gros échecs. Qui ont l'air d'être là et de tout étouffer. d'intelligence sur soi-même pour voir que chacun d'entre nous, nous avons des qualités. Heureusement, la nature humaine a des ressources extraordinaires. Ce que disaient tous ceux qui avaient connu les camps de concentration. Un animal, j'entends encore c'est quand il était revenu là-bas, qu'on l'avait reçu à Paris. Et il a dit spontanément, un animal aurait crevé, vu ce qu'on a porté. Mais nous avons une force et des ressources que l'animal n'a pas. On est esprit. Et c'est l'éveil de l'esprit qui corrige toutes les déficiences biologiques, psychologiques qui sont en nous. Et l'esprit peut dominer ça, mais il faut que l'esprit soit éveillé. Si l'esprit est abattu, il ne peut pas. Alors, il y a la grâce de Dieu, mais Dieu nous demande aussi d'être intelligent et de veiller sur cela. Oui. Donc, il faut comprendre que Dieu nous demande qui relève de notre prudence et de la connaissance qu'on a de soi. En vue de telles finalités, voyez, notre capacité d'aimer, qui est la chose principale dans notre auto-éducation, c'est d'essayer d'éduquer en nous notre capacité d'aimer. Toute éducation se ramène à ça, avant tout. Et toutes les blessures qu'on a pu connaître doivent être progressivement, pour nous, un moyen d'aimer plus. C'est pas toujours commode, hein, parce qu'on a l'impression que les blessures sont des pierres tombales, et qu'à cause de ces blessures, on n'y arrivera pas. Parce que on ne regarde que les blessures. Et la blessure ne corrige pas la blessure. Il faut regarder le capital humain et découvrir en nous notre nature et nos appels capables. On fait ça automatiquement, du moins presque quasi automatiquement, quand on a un tout petit peu conscience de ce qu'on est. Mais c'est les récupérations. On est faible dans un domaine, on le sait. On est fort dans un autre domaine, on le sait. Et alors, chaque fois que la faiblesse se présente dans ce domaine, on récupère pour ne pas rester sous le poids de la faiblesse. Et ça, c'est de bonne santé qu'on fait ça. Et au plan surnaturel, c'est tout de suite vu dans la perspective de la miséricorde du Christ. Et c'est tout de suite vu comme un cheminement vers la pauvreté pour qu'on puisse, à partir de là, nous remettre dans le véritable climat chrétien. Je ne dis pas plus, hein, mais j'ouvre ce secteur. Alors, réfléchissez-y, hein. Toute la critique de toutes les connaissances artistiques que vous pouvez connaître, du Vatcheret qui est en vous, et l'art de l'éducation qui est un Vatcheret, consiste à connaître exactement la matière humaine. Alors là, la psychologie peut aider, peut donner des éléments, c'est évident, ça peut donner des éléments. Mais il faut faire attention. Parce que ce sont des éléments pris d'une manière abstraite. Les lois psychologiques sont abstraites. Donc, le singulier peut toujours dépasser cette loi. Toujours. Parce que c'est une loi. Une loi de vie. Une loi d'infirme. Un infirme doit prendre une béquille. Et la béquille fait partie de l'outil qu'il doit prendre pour pouvoir marcher. Mais il s'en sert. Puis le jour où il peut jeter la béquille, il la jette. Ou il la met sur la grotte. Hein, si, il pense que c'est la prière qu'il a faite à Marie qui l'a sauvée. Alors ça devient un trophée de guerre. C'est un trophée de guerre. Vous voyez, c'est très significatif. Toutes les blessures. Alors en fait, transposez ça pour l'intérieur. Toutes les blessures qui nous fait utiliser un instrument quand on est guéri. L'instrument devient trophée de guerre. Toutes les blessures intérieures, quand on est guéri, deviennent des trophées pour la gloire. Rien n'est perdu à la miséricorde de Dieu. Après la critique du fat chéré, du travail, de l'activité artistique qui implique le travail, il faut faire un travail honnête. C'est-à-dire finalisé par l'œuvre. Et le travail intellectuel lui-même demande d'être honnête. Parce que comme le travail intellectuel, on ne voit pas le résultat tout de suite, on peut tomber dans un dilettantisme. Et le dilettantisme n'éduque pas. Il fait perdre du temps. Alors on perd un temps énorme. Il ne faut pas perdre de temps. Ça c'est le grand principe de toute auto-éducation. Pas perdre une minute dans sa vie. On n'a pas le droit. On doit faire que tout est donné à Dieu. Et si tout est donné à Dieu, on a des mœurs de travailleurs. Et des mœurs de travailleurs sont des mœurs très particulières. Et ça se reconnaît tout de suite. Tandis que le dilettante, il perd son temps. C'est toujours le danger, vous voyez, du travail intellectuel. Parce que il y a un dilettantisme aujourd'hui qui est énorme. Énorme. On ne doit pas faire introduire le dilettantisme dans notre auto-éducation. Il ne faut pas confondre l'amour et le dilettantisme. Il ne faut pas confondre le ronron du petit chat auprès du feu et le vol de l'aigle. Il faut faire attention. Et ça, l'auto-éducation fait ce discernement entre l'amour et la jouissance. La jouissance n'est pas l'amour. Le bien-être n'est pas l'amour. Être heureux dans sa peau n'est pas l'amour. L'amour est au-dessus. Et l'amour demande l'extase, le don de soi. Être tout entier tourné vers l'autre. Et donc c'est un au-delà de toute jouissance. De toute joie. Vous voyez, comme on doit discerner au point de vue prudentiel la sincérité et la vérité pratique. Et ça, c'est très important. La vérité pratique est mesurée par notre finalité, tandis que la sincérité est mesurée par l'harmonie qu'on sent en soi. On est heureux. On est heureux d'être tel qu'on est, je suis sincère. Et le pharisaïsme, la vérité du pharisien, et la vérité de l'homme juste. La vérité du pharisien, il est heureux dans sa peau. Tout ce que je fais est bien. C'est bon. Ça, c'est la vérité du pharisien, la sincérité. Tandis que la vérité objective regarde la finalité. Il y a des gens qui jugent uniquement en fonction du comportement. Ça, c'est un jugement extérieur, selon les apparences. C'est ce qui se voit. On n'a pas le droit de juger des intentions. Absolument pas. Donc, on peut simplement regarder les apparences et on n'a pas le droit de juger. On peut dire, ces apparences m'agacent. Très bien. Ça vous agace, ces apparences. Mais c'est des apparences. Vous voyez, en vie commune, c'est tellement important, ça. C'est pour ça qu'il faut juger personne selon les apparences. C'est dit dans l'Évangile. On ne peut pas juger des intentions. C'est pour ça que je ne peux jamais être juge de l'action de vérité de chacun d'entre nous au niveau de la durée. Tandis que je peux juger attention. Oh, oh, oh. Oui, donne la maladie à tout le monde. Tout le monde est malade. Attention, vous empoisonnez la communauté. Et vous ne pouvez jamais dire que vous empoisonnez quelqu'un moralement. Mais ça peut arriver. Mais vous ne pouvez pas le dire. C'est très important de discerner le fat chéré où on peut juger, de l'adchéré où on ne peut pas juger. Et tous les deux regardent la personne humaine. Il y a quelque chose de l'aspect de la personne humaine que je peux juger, le fat chéré. Il y a quelque chose que je ne peux pas juger, l'adchéré. Il faut avoir un très grand respect de l'adchéré de chacun. Et autant que possible, d'être très net dans le fat chéré. Ne pas appeler une soupe mauvaise très bonne pour faire plaisir au cuisinier. C'est un mensonge. Et vous n'avez pas le droit de juger ses intentions. C'est très très important, ça. Là, la critique est constante à l'égard du fat-chéré et de l'adchéré. Il faut arriver à discerner ça très nettement. Et si on ne fait pas ça très nettement, on ne peut plus comprendre ce que c'est que l'art éducatif. C'est un art. C'est pas une prudence. On éduque la prudence, mais on éduque la prudence pas par la prudence, mais par un art. Après cela, nous regardons le point de vue des connaissances sensibles. Peut-on faire la critique des connaissances sensibles? Grave question. Vous avez vu qu'au point de vue critique, on commence par l'intelligence. Et on regarde ensuite toutes les dimensions de l'intelligence. Et j'en arrive maintenant à la cogitative. À l'imagination, à la mémoire, et puis aux sensations. Tout ce domaine de la connaissance sensible. Est-ce qu'il est critiquable? Ou est-ce que la connaissance sensible, eh oui, je l'accepte. Y a-t-il vérité dans la connaissance sensible? C'est comme ça que je dois aborder le problème. Puis-je dire que je suis vrai dans mon imagination? Je peux simplement affirmer, oui, je vous affirme, j'ai eu ce rêve. Est-ce qu'il y a une vérité dans le rêve? Ou est-ce que le rêve est le rêve? Il se tient tout seul. La question est très très importante. Il n'y a pas de vérité dans la connaissance sensible. Sauf si cette connaissance sensible est au service de la connaissance intellectuelle, spirituelle. Alors, elle peut être un élément de la vérité. Mais en elle-même, non. Pas de vérité dans la cogitative, dans l'estimative. C'est très curieux, ça. Pas de vérité dans l'imagination. L'imagination, c'est l'imagination. Il faut la reconnaître comme telle. C'est un rêve. Il n'y a pas de vérité. Je ne peux pas faire de mon imagination ce que je veux. Ce serait bien commode. Je dois supporter mon imagination et je dois la connaître. Je sais que j'ai une imagination particulièrement fertile à tel moment de la journée. N'est-ce pas? Je sais que j'ai une imagination quand le matin, on a une imagination plus calme. Ordinairement, le soir, on a une imagination plus fertile. Ordinairement, parce qu'il y a des gens qui c'est l'inverse. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Vous savez bien. Il faut découvrir ça. Ça fait partie de la connaissance de soi-même. Et on doit, à ce moment-là, découvrir ce que représente cette agitation particulière de l'imagination. Et comprendre qu'il n'y a pas de vérité dans l'imagination. Mais, alors, celui qui constamment s'accuse de mauvaises pensées, alors qu'en réalité, c'est de mauvaise imagination. C'est très très important de faire la distinction entre les deux. La tentation est au niveau imagination. Elle n'est pas au niveau de la pensée. On nous tente, le démon nous tente. Et puis la tentation, indépendamment du démon, puisque philosophiquement je ne peux pas en parler. La séduction, quoi. Toute espèce de séduction. Toute espèce de propagande, ce sont des séductions. C'est toujours par le point de vue imaginatif, la représentation. La télévision, l'imagination. L'imagination comme telle produit des images, et les images comme telles sont de l'ordre du possible ou de l'impossible. Et il n'y a pas de critique au niveau de l'image. Parce que l'image n'est ni vraie ni fausse. Elle est l'image. Alors, je veux dire qu'il y a des images qui m'aident à accomplir la volonté de Dieu. Et il y a des images qui, au contraire, sont pour moi de terribles tentations. Mais cela, c'est du côté affectif. C'est du côté de l'usage que je fais de l'image. Donc, distinguons bien l'usage affectif qu'on fait de l'image et ce qu'est l'image en elle-même. Et ça, c'est la première chose que fait la critique. Je vois qu'en effet, j'use des images pieusement. Il y a des gens qui ont une imagination pieuse. Ça se voit surtout quand ils sont un tout petit peu éméchés. Alors on voit très bien que à ce moment-là, ils ont une ferveur de piété. Ils mettraient toutes les chandelles à Saint-Antoine en quantité. Parce qu'ils sont une imagination pieuse. Et dès qu'ils rencontrent un curé, ils veulent se confesser. Donc il y a une imagination pieuse et qu'on utilise pieusement. Il y a des imaginations, au contraire, anticléricales. Et violemment anticléricales. Et c'est pas drôle de les rencontrer. Quand on a l'habit. Parce qu'il voit tout de suite. C'est l'imagination. C'est très curieux de voir ça. Parce que l'image en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Mais quel est l'usage que vous en faites? À ce point de vue-là, vous voyez, l'usage qu'on fait des images est très révélatrice. L'image, l'usage qu'on fait de l'image est très révélateur de tout un inconscient. Et c'est cela, les bons psychanalystes se servent de ça. Mais c'est jamais rigoureux, hein. C'est pas la vérité. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. C'est très curieux de voir ça. Vous voyez, quand on est fatigué, on oublie beaucoup de choses. Toujours. La fatigue fait qu'on oublie. La mémoire est très liée à la santé. Dès que vous êtes fatigué, vous oubliez. soi-même, faire cette autocritique. Un psychanalyste, dès qu'il est en face d'un oubli, va l'interpréter différemment. Je me souviens, c'est un petit détail, mais qui est très révélateur. Quand j'allais de Paris à Fribourg, de temps en temps, pour avoir des conversations plus longues, j'allais en auto avec des psychanalystes. À la douane, je dis, ah, j'ai laissé mon passeport dans ma valise. Ah, donc oui, ça prouve que vous n'avez pas envie de retourner à Fribourg. Je dis, non, c'est parce que je suis fatigué. Ah, non, 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 non. Mais quand on est fatigué, on ne garde que le nécessaire et tout le reste est évacué pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. On est polarisé vers le nécessaire et on rejette le reste. Et alors on dit, les gens diront, vous êtes de mauvaise humeur, mais pas du tout. C'est parce que je suis fatigué et je sais que je dois faire ça, je dois le faire. Usage moral.